démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ.
Nous l'appellerons brièvement quelques annonces. Ce que nous avons déjà considéré dans le livre des Actes des Apôtres des années précédentes, comme intelligent du sujet que nous abordons cette année. On sait qu'avec le chapitre 13 commence le ministère de l'apôtre Paul. En vue de l'œuvre qui prend une nouvelle dimension en faveur de toutes les nations, ce ministère comporte donc les chapitres 13 à 28. Essentiellement, chapitre 13 à 20, nous avons l'œuvre de ce grand serviteur de Dieu, ses travaux, ses voyages, son dévouement, tout ce que Dieu a opéré par son moyen. Partie du chapitre 21 jusqu'à la fin du livre, nous avons davantage les souffrances de ce cher serviteur de Dieu. Le mémorial commence donc au chapitre 13, à partir d'Antioche, métropole de la Syrie, non plus à partir de Jérusalem, mais à partir d'une ville gentille. Nous avons donc parcouru ces chapitres comportant le premier voyage qui se termine donc avec le chapitre 14. Au chapitre 15, nous avons ce qu'il est convenu d'appeler le concile de Jérusalem. Le verset 36 de ce chapitre 15 débute le second grand voyage missionnaire de l'apôtre. Un incident qui est intéressant de rappeler marque le début de ce voyage. Barnabas a été jusque-là le compagnon de l'apôtre, mais au sujet de Marc, il avait abandonné ses deux serviteurs de Dieu au début du premier voyage, au sujet de Marc, que Barnabas voudrait encore prendre avec eux, il y a une dissension, il y a une irritation entre ces deux serviteurs de Dieu, sans que Barnabas va s'en donner avec Marc d'un côté, et Paul fera choix de silence pour l'accompagner dans ce deuxième voyage. Un peu plus loin, dans le chapitre 16, il s'adjoindra Timothée, dont le ministère, le service divin, l'attachement à la peau est si remarquable. Dans le chapitre 16, nous assistons à beaucoup d'événements que nous avons considérés ensemble, et nous avons vu l'apôtre s'en aller en Syrie, en Cilicie, fortifiant les assemblées. Nous l'avons vu en Phrygie et en Galatie, au verset 6 du chapitre 16. Nous sommes intéressés, d'une manière particulière, aux événements qui se sont déroulés à Philippe. Nous nous souvenons de l'emprisonnement de l'apôtre et de toutes les conséquences qui en résultent. Comment l'ennemi est déjoué, comment une assemblée a été suscitée dans cette ville. À partir du chapitre 17, nous nous trouvons à Thessalonique, ensuite à Bérée. Partout, l'apôtre rencontre des difficultés, de l'opposition, la méchanceté des Juifs qui ne peuvent pas supporter que l'évangile soit adressé aux nations. Mais Dieu aide son serviteur. Partout, la parole produit des effets extraordinaires. Dans ce chemin de l'opportunité, nous parvenons à Athènes, où Paul prononcera sur l'aréopage ce discours universellement connu. Nous nous sommes arrêtés l'année dernière avec lui, ceux qui étaient avec nous peuvent s'en souvenir. Avec la fin du chapitre 17, nous avons donc Paul qui quitte Athènes et qui arrive à Corinthe. Nous avons arrêté particulièrement sur cet épisode intéressant, la présence de Paul à Corinthe, en ville, moderne, prospère, dans laquelle Paul se trouve en présence de personnes sans doute instruites, attachées au paganisme et qui était bien sans doute de nature impressionnée. L'apôtre, mais comptant sur Dieu, sur la promesse qu'il avait faite, dans un grand tremblement, réalisant sa propre faiblesse, Paul va présenter l'évangile et une assemblée nombreuse sera constituée dans cette ville. Nous en savons quelque chose par les écrits qu'il a écrits un peu plus tard à cette assemblée. Nous avons insisté l'année dernière sur le fait que l'évangile a été présenté à Corinthe dans des conditions toutes simples, aussi simples qu'il est possible de les imaginer. Aucune recherche de moyens, aucun appel à des moyens extraordinaires comme les hommes estiment devoir le faire en vue de frapper ceux à qui ils veulent s'adresser. Rien de tout cela chez la prophète. Les rencontres, un ménage, un couple, Attila et Priscilla, dans l'histoire si remarquable, et avec ces deux enfants de Dieu, sans doute ils sont déjà croyants, ils vont travailler de leurs mains, fabriquer des tentes, ce qui est leur métier commun, et à partir de cette occupation, vont présenter l'évangile, et le Seigneur va opérer puissamment par ce moyen. Donc nous retenons pas d'appel à des comités ou quoi que ce soit que les hommes estiment devoir mettre en œuvre pour réunir des moyens en vue de frapper ceux à qui ils veulent s'adresser. Pas du tout. L'évangile est la parole en lui-même, par lui-même, sans aucune agite. Il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Par l'évangile, promis pour les Juifs, promis pour les nations, que Paul va présenter cet évangile qui a pour sens, qui a pour objet Jésus-Christ crucifié. Mais si l'évangile est poli pour le monde, il est cette puissance de dialogue. Enfin, des incidents fort intéressants de son passé à Corinthe, à l'égard de Priscus, le chef de synagogue, il devient certainement croyant, et Sosthène qui l'a remplacé devient lui aussi un croyant. Il est raisonnable de penser que ce Sosthène, nous le trouvons l'histoire dans le chapitre 18, est le même que Paul s'associe pour écrire aux Corinthiens la première lettre. Enfin, pour terminer cette introduction, je contribue à un rappel de fait important, quoique très succinctement présenté. Ayant demeuré là un an et six mois, Corinthe, Paul va s'en aller pour Éphèse, en compagnie d'Attila et Priscilla, qu'il va laisser à Éphèse. Et lui, il ne va pas consentir à demeurer là, ayant l'intention de s'en aller vers Jérusalem pour célébrer la fête prochaine. Et ce deuxième voyage se termine donc à Césarée, où Paul a salué l'Assemblée et de là descend à Antioche. Le deuxième voyage se termine donc au verset 22 du chapitre 18. Nous allons à partir du verset 20 pour lier le sujet, car il s'agit des thèses dans ces versets, où à partir du verset 24, nous avons le récit de la présence d'Apollos à l'Éphèse, qui est donc venu là et qui va se trouver en présence d'Attila et de Priscilla, qui seront employés par le Seigneur pour l'instruire davantage et lui permettre de saisir toute la portée, toute la richesse de la vérité chrétienne, dont il n'a saisi que l'introduction, comme il n'a saisi que les parties élémentaires. Mais c'est un serviteur de Dieu d'une grande qualité et nous allons avoir beaucoup de profit en considérant son histoire. Nous aimerions revenir sur deux points pratiques du premier alinéa de notre lecture de cet après-midi. Nous souvenons qu'ils ont été considérés peut-être un peu rapidement l'année passée parce que nous arrivions à la fin de notre lecture. Ces deux points pratiques sont les suivants. Le premier, appel à la dépendance de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est donc à Éphèse. Il pense qu'il doit partir. Il faut absolument que je serve dans cette prière à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Il doit prendre congé de sa affaire, mais il est tout disposé à revenir à Éphèse si Dieu le veut. Et cela, chers amis, est d'une très grande importance pratique pour nous tous. Tous, nous avons coutume de dire que demain, nous irons ici, après-demain, nous irons là, après-après-demain, nous arrêterons dans telle ou telle assemblée. Il est nécessaire, quand nous formulons des projets semblables, surtout quand il s'agit du service du Seigneur, que nous ayons affaire avec Dieu, que nous ne disons pas que c'est Dieu qui dirige. Nous dirigeons dans tel ou tel endroit parce que Dieu veut que nous dirigeons là. Si Dieu le veut, sans penser pouvoir rappeler tous les passages où nous avons cette expression, qui a été un peu quelque peu contractée, abrégée par les mots courants d'aujourd'hui, Dieu voulant, nous rappellerons ce qui est écrit toujours par l'apôtre Paul au début de la première épître aux Corinthiens et à la fin de cette même épître. Première épître aux Corinthiens au chapitre 4e. L'apôtre désire revenir à Corinth. Que dit-il au verset 19e du chapitre 4? J'irai bientôt vers vous si le Seigneur le veut. C'était son désir de retourner à Corinth, et l'apôtre avait reçu fort l'encouragement à Corinth, et pourtant, si c'était la pensée du Seigneur, il désirait y aller. Il peut dire ceci: j'irai bientôt vers vous si le Seigneur le veut. Et à la fin de cette même épître, au chapitre 16e, l'apôtre ne dit pas seulement qu'il désire retourner en Corinth, mais qu'il espère, verset 7 du chapitre 16, qu'il espère qu'il demeurera avec eux quelque temps si le Seigneur le permet. Il y a encore une pensée importante pour nous tous qui nous concédons bien que les temps ont changé, mais chacun réalise combien il est à souhaiter d'un frère qui a cœur, les issues des assemblées, plus dans une assemblée, demeurer quelque temps. L'apôtre avait à cœur non seulement d'aller à Corinth, où il n'avait été pas bien reçu, malgré cela, il désirait non seulement y aller, mais demeurer là quelque temps si le Seigneur le permettait. Et puis, nous citons la parole d'un autre auteur des Épîtres, que nous dit Jacques au chapitre 4e, Jacques 4. Au verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui, ou demain nous irons dans telle ou telle ville, et nous passerons une année, et nous pratiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qu'arrivera le jour de demain, car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant, au lieu de dire si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Si l'auteur de l'Épître s'adresse, disons, aux Juifs d'une façon générale, à combien plus forte raison alors nous, chrétiens, devons-nous être en témoignage. Et à cet égard, dépendre de la volonté du Seigneur non seulement dire de mon lèvre, mais réaliser dans notre cœur, si c'est la volonté de Dieu. Et quand nous disons, quand nous écrivons Dieu voulant, il est important que nous réalisions la force de telle parole. Le roi Salomon, en écrivant à la fin du livre des Proverbes, dit ceci, verset 1er du chapitre 27 du livre des Proverbes, ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour engendrera. Nous n'avons pas à nous glorifier du jour de demain. En pensant au jour de demain, nous avons toujours à défendre la volonté du Seigneur. Tournons-nous en faveur de ce point, premier point pratique, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, si le Seigneur le permet. L'autre point pratique, avant de passer au sujet du serviteur, Saint-Pélos, est le but, ou disons le résultat du ministère de l'apôtre Paul. Verset 23e de ce chapitre 18, nous voyons donc, comme notre frère vient de dire, l'apôtre commence son troisième voyage missionnaire. Le deuxième s'achève au verset 22, le troisième commence au verset 23, puisque le Dieu n'a pas jugé bon de s'étendre sur l'intervalle entre ces deux voyages, comme c'était le cas par exemple. Entre le premier et le deuxième voyage que nous venons de l'entendre. Ayant séjourné là quelque temps, il s'en alla avec sa successivement pays de Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Quel heureux résultat d'un ministère, chers amis. C'est la seconde pensée pratique, très pratique, sur laquelle nous pensons qu'il est bon d'insister à nouveau. Le résultat du travail de l'apôtre Paul a été, entre autres, celui-ci, fortifier tous les disciples. Nous avons vu l'an dernier qu'à quatre reprises, un tel résultat est mentionné. Pour commencer au chapitre 14e, l'apôtre est retourné dans les lignes de liste, l'Italien et l'Antioche, verset 22e du chapitre 14. Que pour la première fois nous entendons en quoi consistait l'activité de l'apôtre. Elle revêtait, nous disons, trois caractères. Premièrement, fortifiant les âmes des disciples. Deuxièmement, les exhortant à persévérer dans la foi et les avertissant. Troisièmement, que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y avait donc là des âmes fortifiées, il y avait une exhortation, il y avait un avertissement, que c'est par beaucoup d'affliction qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre, il était donc donné à l'apôtre de fortifier les âmes des disciples. Peut-être s'agit-il d'un contact personnel de l'apôtre avec les disciples, avec ceux qui avait reçu la parole de l'Évangile. Je n'ai pas seulement dit les disciples, il est dit les âmes des disciples. Deuxième passage au chapitre 15e, où il nous est parlé de deux hommes qui étaient prophètes. Verset 32 du chapitre 15, Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifières. Quel heureux résultat, chers amis, une activité pour le Seigneur. Un frère attend dans une assemblée, ou un frère agissant au sein de l'assemblée, à laquelle il se rattache, quand il peut être vu de ce frère, que de la part du Seigneur, il fortifie les frères. Est-ce toujours là notre activité, chers amis? Nous nous adressons spécialement aux frères qui sont appelés à agir dans l'Assemblée d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est ce but-là que nous recherchons toujours, fortifier les frères, ou bien peut-être par nos interventions déplacées, intempestives, nous avons eu trop mal à parler. Est-ce que le but de notre activité est cela, fortifier les frères, comme il a été donné à ces deux frères, c'est le prophète de le faire. Troisième passage, même chapitre 15, verset 41. Encore, de nouveau, le cœur de lui, il parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les assemblées. Nous voyons là un frère, donc il s'agit de l'apôtre Paul, nous voyons l'avantage à penser d'un frère itinérant, un frère passant d'une assemblée dans l'autre. Le résultat de son ministère est cela, il fortifiait les assemblées. Ce n'est pas un bon résultat, cela. Ce n'est pas une simple activité que celle-là, selon la procédure. Ce n'est pas être dirigé par Dieu lui-même. Quand on voit que le résultat de cette activité est cela, les assemblées fortifiées, nous avons besoin de prendre garde à de telles déclarations. Ce ne sont pas les petits détails que Dieu nous a conservés dans son sein livre. Ce sont les pensées d'une extrême importance. C'est dans les temps où le diable, Satan, l'ennemi, l'adversaire de Dieu, cherche par tous les moyens à troubler et à diviser, il importe de nous souvenir quel est le résultat de l'activité d'un serviteur qui agit selon Dieu. Il fortifie les assemblées. Et enfin, le dernier passage, en finale 4. Le quatrième, c'est celui de verset 23, où il est dit que la cause ne fortifiait pas seulement les disciples, les assemblées, il fortifiait tous les disciples, il sentait tous les croyants qui ont bénéficié de son ministère, tous, sans exception, ont été fortifiés. Par voie de contraire dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu nous parle de conducteurs du peuple, de mauvais conducteurs, au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, ou alors le prophète va dire de la part de l'Éternel, au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, c'est la parole de l'Éternel que lui a été, fils d'un prophétise contre les pasteurs d'Israël, et en gros, il dit ceci au verset 4, vous n'avez pas fortifié les faibles, et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Voilà ce que fait le mauvais pasteur, voilà ce que fait un conducteur qui n'est pas envoyé par Dieu. Vous ne fortifiez pas les faibles, vous n'avez pas fortifié les faibles. Que le Seigneur nous accorde à tous, spécialement aux frères et aux jeunes qui ont à cœur de servir le Seigneur, qui sont toujours au but de l'activité qu'ils exercent, qu'ils continuent, fortifier les âmes, fortifier les assemblées. Retenons donc ces deux points pratiques de cette alinéa du verset 20 à 23, d'une part, la dépendance du serviteur qui a à cœur de s'en remettre à son Dieu, si Dieu le veut, et d'autre part, le résultat de l'activité d'un serviteur qui agit selon la pensée de Dieu, fortifiant tous les disciples. Et par contre, pour le cas, nous paraissons une fille ou un frère, on est toujours plus.
Deux petits éléments, celui de Pierre, à qui le Seigneur dit, et toi, quand tu seras revenu, et c'est donc essentiel de son ministère, il est inscrit, fortifie tes frères. Luc 22, verset 32. La parole, source de force, c'est incontestable. Daniel dira, lorsque le Seigneur nous parle, et comme il parlait avec moi, je prie de force. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Daniel 10, 19.
si Dieu le veut, est aussi accepté d'être empêché. Et alors que nous allons voir l'apôtre à Éphèse, nous savons que dans le chapitre 16 du livre des Actes, cet homme dépendant de ceux qui l'accompagnaient, ils ont aussi au Messie, et ils traversaient la Phrygie et les pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Dire si Dieu le veut, c'est accepter d'être empêché au temps choisi par Dieu.
Alors, dans ce passage de l'acte 16, si en effet les serviteurs de Dieu reconnaissent qu'il y a un empêchement, qu'ils veulent aller dans une province, ils ne peuvent pas y aller. Ils veulent aller dans une autre province, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas de la cause, les serviteurs s'inclinent. Mais alors, quand Dieu parle et leur dit « va d'ici », ils sont prêts de la même manière à obéir. Quand Dieu leur parle, et à la pause en particulier dans une vision de la nuit, en lui disant de quitter l'Asie mineure et de passer en Europe pour annoncer l'Évangile, alors la pause obéit aussitôt aussi. Et maintenant, avec le verset 24e, comme cela a été dit d'ailleurs, nous faisons connaissance avec une des grandes personnalités du début du christianisme. Il ne s'agit pas d'un apôtre, il s'agit d'un instrument que Dieu a suscité à un moment donné et a formé, et il paraît sur la scène ici, au verset 24 du chapitre 18. Il vint à Éphèse un juif nommé Apollos, alexandrin d'origine, et saint caractère, nous sont venus. Tout d'abord, il était un homme éloquent. Ensuite, il était puissant dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Et certainement, il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Ce n'est pas le seul passage où il est parlé d'Apollos. Ici, nous en connaissons avec lui. D'après le chapitre 3e de la première épître aux Corinthiens, nous apprenons à connaître que l'activité de cet homme a été une activité heureuse. Elle est définie par un seul mot, par le verbe arroser. C'est ce que dit l'apôtre Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé le sol d'un accroissement. Il avait arrosé. Il avait eu à cœur l'édification de l'assemblée. Il avait eu à cœur la prospérité de l'assemblée. C'était le serviteur qui n'avait pas planté à proprement parler, mais qui avait arrosé. Il avait été à la main de Dieu par le moyen des saints écritures, il avait été un moyen de bénédiction. Apollos a arrosé. Et on comprend que, étant donné les qualités que le Seigneur avait accordées, qu'il était le sujet d'un certain engouement de la part de frères, comme il y en avait beaucoup à Corinthe. Et cela avait amené un esprit de parti dans cette assemblée. C'est la première forme du mauvais esprit qui est jusqu'à Corinthe que l'apôtre Paul va dénoncer. L'esprit de parti, et cela à la faveur du serviteur de Dieu. Il y avait toute une partie dans l'assemblée à Corinthe qui avait manifesté un engouement particulier pour Apollos, d'autres, un certain nombre pour Cephas, d'autres encore pour l'apôtre Paul lui-même, et puis il y avait un quatrième parti. On faisait tout simplement abstraction des serviteurs de Dieu, qui n'étaient pas beaux, cette part juste du tout, en cette attraction de serviteur en disant, eh bien nous avons affaire avec le Christ. Et en raisonnant ainsi, on faisait le Christ en chef d'école, comme de preuve de ces phrases catholiques. On mettait la personne du Christ sur le même rang que les philosophes d'autrefois, qui chacun avait son école particulière. C'était l'esprit de parti. Peut-être au cours de ces études sur la cloche, nous aurons l'occasion de dire quelques mots concernant le service en rapport avec les chapitres 3 et 4 de la première épître aux Corinthiens. La l'autre mention suivante, disons la troisième, en 1 Corinthiens 16, il nous est encore parlé à Paulos, et c'est la propos du parle, 1 Corinthiens 16, verset 12. Pour ce qui est du frère d'Apollos, je vais beaucoup prier d'aller auprès de vous avec le frère, mais ce n'a pas été du tout sa volonté d'aller maintenant, mais il ira quand il trouvera l'occasion favorable. En fait, Apollos n'avait pas la moindre pensée. Il est parlé de sa volonté, mais quand l'apôtre parle de sa volonté, il parle de la volonté de Dieu qui nous prépare le chemin d'Apollos pour aller à Corinthe à ce moment-là. Apollos ne voulant pas aller dans une assemblée où l'on discréditait un serviteur tel que l'apôtre Paul. Cela montre l'union de pensée et de sentiment qui existait entre ces deux serviteurs. Ah, on parle comme cela à l'apôtre Paul, on ose discréditer l'apôtre Paul à Corinthe, et moi-même, il faut que j'aille dans un tel milieu du monde. Pour le moment, je ne vois pas du tout mon chemin. Quand il y aura une occasion favorable, je dirai. Et dans ce verset 12, nous avons quelque chose des exercices d'Apollos avec Dieu. Et dans le chapitre, finalement, au chapitre 3e, encore une mention d'Apollos. Au verset 13 du chapitre 3 de ce petit chapitre, « Accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos afin que rien ne leur manque, et que les autres aussi apprennent à être promis dans les bonnes heures pour les choses nécessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. » Tite devait accompagner avec soin, ce n'était pas seulement être une compagnie, pour passer le temps à un serviteur. C'était accompagné avec soin en raison que rien ne manque à un homme comme Zénas ou à un autre homme comme Apollos. Cela est ce que la parole de Dieu appelle accompagné avec soin un serviteur. Zénas, le docteur de la loi, c'est-à-dire le juriste, et Apollos, afin que rien ne leur manque. De ces différents versets, bref, c'est vrai, mais nous avons des leçons toutes parties à retenir. Dans notre premier passage, acte 18, il nous est donc dit qu'Apollos était tout d'abord éloquent. Il avait une très grande facilité à s'exprimer en public, et il y a toujours un charme incontestable dans l'éloquence. Un frère qui présente la parole avec éloquence et en même temps avec sérieux se rendant compte qu'il nous parle de la parole même de Dieu, certainement que cette éloquence a quelque chose à faire et on est heureux de pouvoir bénéficier du ministère de la parole quand la parole est présentée avec éloquence. L'éloquence vu comme étant une qualité que Dieu peut accorder à l'un ou à l'autre. Mais la parole de Dieu mentionne d'abord cette qualité d'éloquence, tout aussitôt après, on voit que Apollos n'était pas seulement éloquent, il n'y avait pas eu grand-chose s'il n'avait été éloquent. L'éloquence sans la parole de Dieu, ou sans la connaissance de la parole de Dieu, autant dire que ce n'est rien du tout. Mais chez Apollos, il y avait cette puissance dans les Écritures, parce qu'il était inscrit dans la loi du Seigneur. et puis le Saint-Esprit, le fervent esprit, il dépendait de l'action du Saint-Esprit. Et alors ainsi il était à même de parler, d'enseigner soigneusement, vivement, les choses qui concernaient Jésus. Encore un mot sur l'origine d'Apollas. La parole de Dieu prend soin de dire qu'il était alexandrin à l'origine. C'était donc un juif, un sept, que Alexandrie a été véritablement un lieu de refuge pour les juifs, ils étaient très nombreux. Apollos était l'un d'entre eux. Il est donc originaire d'Alexandrie. Or, on sait qu'Alexandrie a été une ville dont le rayonnement a été extrêmement grand, surtout sur le plan littéraire. C'était le temps où il y avait à ce moment-là la dynastie des Ptolémées qui régnait. Cette dynastie, comme un jeune frère l'a rappelé tout à l'heure, cette dynastie a régné entre le 3e et le 1er siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à l'arrivée de l'ère chrétienne. Et plusieurs de ces Ptolémées ont été extrêmement favorables à l'expansion, à la diffusion des lettres. Ils ont été extrêmement utiles dans ce sens-là. Ils n'ont même pas, plusieurs d'entre eux n'ont même pas manqué de sentiments de piété. L'un d'entre eux, par exemple, a été celui qui a récompensé ceux qu'on appelle les septembre parce qu'ils avaient traduit dans la langue grecque les saintes écritures de l'Ancien Testament. Il fallait bien avoir quelques sentiments, au moins d'un plus respect pour pouvoir récompenser des gens qui ont pris la peine de traduire la parole de Dieu, l'Ancien Testament, dans la langue grecque, la langue répandue en ce temps-là. Et nous pouvons penser qu'Apollos a bénéficié de cette atmosphère d'instruction, d'érudition. Dieu a permis que ce serviteur soit en contact avec ces éléments-là, et le Seigneur s'est servi de l'instruction, de l'érudition d'Apollos pour que plus tard il puisse être utile dans le service du Seigneur. Et c'est ce que nous voyons ici. Cet homme, Alexandrin d'origine, parlait, enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus. C'est donc, nous rappelons pour ceux qui n'ont pas entendu la référence du Père Prophète, livre de l'Exode, chapitre 4, verset 10. Et nous nous permettons de relire le verset. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme de votre temps. » Et en note, il est dit « un homme de parole. » Ni hier, ni la matière, ni le petit pas à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. Nous avons là l'image d'un homme que Dieu appelle à son service, mais cet homme se sent parfaitement incapable pour répondre à l'appel de Dieu. Dans un sens, c'est un sentiment très bon, un sentiment d'unité. On n'a aucune espèce de confiance en soi-même. Où cela ne deviendrait plus sans la pensée de Dieu, c'est qu'on persiste dans le sentiment « je ne suis pas un homme éloquent, je ne peux pas parler, donc il est impossible que j'aille dire quoi que ce soit aux parents, par exemple, ou quoi que ce soit au peuple dont il confie la responsabilité. » Mais, comme premier sentiment, reconnaître que l'on n'a aucune éloquence, que veux-tu faire, oh Dieu, avec un homme comme moi, je ne sais pas parler, ce sentiment est bon, parce qu'il montre la défiance de celui que Dieu appelle à son service. Et Dieu veuille que Pluton, que le mouchant Paul, sur le mer, et que j'enlève, et que Saint-Jean, par exemple, nous pensons pouvoir partir ainsi au service du Seigneur, le Seigneur nous garde ses sentiments, il nous donne d'avoir les sentiments de Moïse. Mais si Moïse, nous faisons la chose, elle est persistée dans cette pensée, je ne suis pas un homme de camp, oh Dieu, je parle-t-il avec moi-même, ne m'envoie pas à ton service, je ne peux pas, à ce moment-là, alors, tu t'es fait une désobéissance à l'appel céleste. Il est très remarquable de voir que le grand serviteur comme Moïse, ou un grand serviteur comme Jérémie lui-même, quand il est passé, il est juste un enfant. Qu'est-ce que je veux faire pour lui faire? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Je veux faire donc, étant un enfant, je ne peux rien faire. D'où alors, les exhortations, les appels de Dieu, les encouragements de Dieu à l'endroit du serviteur. Et Moïse et Jérémie sont devenus les serviteurs d'une très grande utilité, d'une très grande efficacité, parce qu'ils étaient dans la main de Dieu et conduits par Dieu lui-même.
Il y a dans le chapitre 15 du livre de Jérémie un passage qui nous donne un secret. Le secret de l'éloquence. Jérémie 15. Verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
Donc, expression éloquente dans ce paragraphe, ça s'attache éloquente dans les Écritures et puissant dans les Écritures. Et le temps des Écritures, c'est être rempli de l'Écriture, de connaître l'Écriture, et être capable de pouvoir la présenter. C'est pas tant l'éloquence naturelle, hein, que de s'en servir. C'est essentiellement l'éloquence de l'Écriture, la connaissance de l'Écriture, qui nous permet d'entrer dans la pensée de Dieu. Et tout ce qui est en Dieu, de derrière soi-même, il doit être dans un sens, et l'autant dans l'écriture, bien connaître l'écriture pour pouvoir en parler autour. Car la foi vient de son entente, et de son entente par la parole de Dieu. Donc si c'est par la parole de Dieu, c'est impossible de faire connaître la pensée de Dieu. Et donc on touche éloquent dans l'écriture. Donc ça ne peut pas éloquent dans le sens naturel du mot. Et nous sommes éloquents de l'écriture, qui correspond bien à l'écriture. Nous serons éloquents dans l'Écriture. Éloquents dans l'Écriture, et peut-être aussi puissants dans
l'Écriture. Je veux dire quelques mots en rapport avec la parole. D'abord, on va venir sur un détail du verset 22 qui ne peut être pas toujours bien compris. C'est du détail. Parce que 22 est abordé à Césarée comme Mota. Et ça, il a entendu et il est entendu comme ça. En première lecture, il semblerait qu'il Mota à Césarée. Ce n'est nul dans le cas. Césarée, c'est un bord de mer, ou pour la réalité, c'était le siège du gouvernement civil. De même, Jérusalem était le siège du gouvernement religieux. Et quand il est dit qu'il monta, ça veut dire qu'il monta à Jérusalem. Il est dit au verset 21, il faut absolument que le célèbre soit fait entrer à Jérusalem. Dans votre fond, termine son verset 1, en montant à Jérusalem, il salue l'assemblée de Jérusalem, puis il reviendra en Dioche, d'où il commencera son troisième voyage. Chaque voyage du Seigneur de Paul commence à Antioche. Mais l'Esprit Saint a ramené bon de nous donner le détail concernant ce passage de Paul à Jérusalem. Il connaît beaucoup ton cœur en tant que juif qui n'est pas ta chair de Dieu, mais l'esprit de Dieu qui dit seulement lui le nom de ça, sans y avoir changé, tu ne dis rien qui te rapporte à toi. C'est un détail, mais quand il faut le comprendre, qu'il le nom de ça, c'est le Dieu ingénieur. Alors, en colosse, il est un éloquent et puissant dans les écrits. Il est évident que ce verset veut dire dans les écritures de l'Ancien Testament. En ce moment, aucune épître qui était encore écrite dans la même écriture, cet homme avait été instruit dans les écritures de l'Ancien Testament. Et n'oublions pas que l'Ancien Testament est aussi important pour notre éducation de l'homme. Il est bien supposé, sachant que dès l'enfance, tu connais le Saint-Pierre, hein, c'est dans le Nouveau Testament, mais tu sais qu'il peut te rendre sage à ça. Voici un homme, Apollos, qui avait certainement la vie de Dieu, mais qui ne connaissait, comme les saints du Testament, que les écritures qui ont précédé la vie. Il avait été magnifié par ça. Donc il avait certainement entendu que Jean disait, celui qui vient après moi participera de l'Esprit Saint. Mais il ne sait pas encore que l'Esprit Saint est venu et qu'il a baptisé tous les croyants en un seul temps. Il a besoin d'apprendre des églises. Par qui va-t-il apprendre grâce à l'Esprit Saint? Ceci nous montre que si la vie est obtenue par Dieu, bien sûr, c'est comme dans la vie de Dieu, comme il est saint dans le Testament. Mais il n'avait pas dans la beauté, mais dans la vie. Et bien, dans l'évolution de la vie chrétienne, Dieu seul conduit la vie, mais les croyants qui connaissent leur vie ont du droit. Et nous allons voir comme exemple la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus. Le Seigneur est arrivé là, devant le tombeau de Lazare, qui a pleuré. Quand il dit d'abord, ôtez la pierre, il n'a pas enlevé la pierre, il aurait pu le dire d'un seul mot, il n'a pas enlevé la pierre, il a dit aux hommes, ôtez la pierre, préparez le chemin pour que cet homme de vérité puisse sortir de là, ôtez la pierre. Il a dit, Lazare, ici, dehors, lui seul, pouvait prononcer ses paroles et prononcer la vie, et celui qui était mort, lui a prononcé. Ensuite, a dit, cet homme est apparu, mais avait les pieds et les mains liés, comme quelqu'un qui est encore mort, il était encore pouvoir bouger. Alors le Seigneur a dit, délivre-le et laisse le mal. Il y a la part de Dieu, c'est le premier à vie, lui seul qui le fait. Dans une âme d'homme, il n'y a que Dieu qui est pour la vie. Il avait promis la promesse. Mais alors, il faut que c'est lui qui se développe. Et c'est la part des croyants à qui Dieu donne une mission de profiter, de faire progresser dans la connaissance des vérités ceux qui connaissent le Seigneur et qui ont besoin d'être instruits. Je vais ici, parce que l'accident de Christina, on est instruit dans la loi du Seigneur plus exactement que ça. N'oublions pas que ce que nous demande ici, nous en croyons que nous en croyons. Pour que faire des progrès à ceux qui ont déjà la vie de Dieu. Apollos était déjà meilleur. Après la vie de Dieu, il avait la foi, il avait tout, mais il y avait bien des choses qu'il ne connaissait pas encore. Et c'est justement Aquilas et Priscilla qui ont pu l'inscrire plus exactement. Ce qui est le monde aussi bien précieux pour les croyants. Quand nous trouvons des âmes qui ont envie de Dieu, mais qui ne connaissent pas encore toutes ces vérités précieuses qui font notre joie de leur dire la parole, il y a tant de privilèges que vous ne connaissez pas encore, mais apprenez-les par la parole de Dieu, par la chose de la vie.
Remarquable de penser que cet homme, Apollos, connaissent l'Ancien Testament et ont bien avec cette précision par les seules vérités de l'Ancien Testament qui le permettent à connaître Jésus et à parler ensuite de Jésus. Il semble, d'après le texte, la manière dont l'Esprit de Dieu s'exprime dans ce verset, que Jésus était le terme principal, le centre de toute la prédication et de tout l'enseignement d'Apollos. Il enseignait les choses qui concernaient Jésus et le faisait avec soin, diligemment. Cela confirme la pensée de notre personne tout à l'heure, qui a fait ressortir l'importance de l'Ancien Testament. Comme ça, nous sommes devenus édifiés dans nos âmes, aussi bien par l'Ancien Testament que par le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, de dire que maintenant nous sommes dans le temps du christianisme, ce qui nous faut, nous, ce Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin des vérités de l'Ancien Testament. Cela est un discours qui vient du diable lui-même pour nous amener à nous détacher de l'Ancien Testament et à ne plus voir cette merveilleuse unité d'enseignement existant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ce qui constitue la parole de Dieu tout entière. Jésus était annoncé dans l'Ancien Testament. Il est révélé, pleinement révélé dans le Nouveau. Ce qui est remarquable, c'est qu'Apollos, par la lecture de l'Ancien Testament, l'étude des Écritures connues en ce temps-là, a été amené à connaître Jésus.